Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma jeune femme d'aujourd'hui a grandi dans un monde agricole pour en faire aujourd'hui son métier scientifique et résolument tourné vers l'avenir et vers l'humain. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Karima Charraq, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Karima.
Là-bas, merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ta femme d'aujourd'hui. Quel plaisir d'appartenir à ta communauté. Des femmes entendues, soutenues. Merci beaucoup et bravo pour ce travail.
Merci infiniment. Merci d'y contribuer surtout. C'est grâce à toi et grâce à toutes les femmes avec lesquelles je discute depuis 4 ans que finalement cette communauté s'est construite et que les femmes se sentent écoutées, soutenues. Et voilà, c'est chacune de vous qui contribue à construire cette communauté. Alors Leila Karima, toi tu es ingénieure d'abord, ingénieure agronome, c'est bien ça?
Oui.
Qu'est-ce qui fait, on a toujours dans la mentalité, en fait, dans la perception, on a toujours l'impression que c'est un métier très masculin, ingénieur agronome, que c'est le fait de travailler la terre, de l'analyser, etc. C'est pour les hommes et pas pour les femmes. Est-ce que je me trompe?
Effectivement, c'est un stéréotype, vraiment c'est un stéréotype que tout le monde porte. Sur le métier de l'agronomie, bien d'ingénieur agronome, pour les femmes. Il y a une part de vérité pour tout ce qui est terrain. Voilà, c'est un métier souvent porté par les hommes. Mais actuellement, quand on dit ingénieur agronome, c'est plutôt de l'ingénierie et pas d'un travail traditionnel comme on le savait depuis longtemps. Donc, le travail traditionnel, c'est souvent chez des agriculteurs qui sont dans le rural. C'est eux qui travaillent ces terres avec des outils manuels. On appelle ça la petite agriculture. Mais actuellement, un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment, il s'appuie sur l'ingénierie, voilà, sur des technologies pour gérer les fermes, pour gérer la production, la protection des cultures, avec des outils très innovants, c'est avec l'intelligence artificielle, avec l'IoT, avec l'agrotechnologie. Donc, c'est des outils très innovants. Donc, pour une femme, on n'est plus sur le sol, en train de travailler le sol et cultiver manuellement, mais plutôt, on est des stratèges, on est des personnes qui trouvent des solutions le reste, ça reste c'est des machines qui exécutent sur le terrain.
Alors justement, IoT, juste pour préciser, c'est Internet of Things.
Exactement.
Okay.
Exactement.
Alors justement, tu as parlé de IoT, tu as parlé d'intelligence artificielle, tu as parlé de tout ça. Toi, comment tu as complété ta formation entre l'ingénieur agronome et finalement cet ingénieur agronome 2.0, 4.0 et bientôt 5.0?
Alors vraiment, c'est une exigence actuellement de se spécialiser ou bien d'être conscient de l'importance de cette technologie. Actuellement, avec tous ces changements, surtout, je parle du Maroc, la succession des années de sécheresse, avec les changements climatiques, avec les besoins en production végétale, animale, on est toujours dans le besoin, mais la terre, les conditions édaphoclimatiques, édapho c'est tout ce qui est en sol, climatique, c'est le climat. Donc, ils ne peuvent pas, ces conditions, ils ne peuvent pas nous fournir ce qu'on demande. Donc, vraiment, on est actuellement, nous avons pris beaucoup de choses de la terre, de l'eau. Et maintenant, on ne trouve pas vraiment ces ressources pour produire suffisamment pas uniquement pour nous, parce que le Maroc, il exporte à l'étranger. Donc, on produit notre nourriture et on produit pour les autres. Donc, on exporte pour avoir la devise. Donc, on a vraiment stressé nos sols, on a stressé les ressources hydriques. Et tu savais, on vient de sortir de 7 ans de sécheresse cette année et on était bien, mais le reste, on ne sait pas ce qui va venir par la suite.
Oui.
Et vraiment, à cause de cette asphyxie, de ce stress que nous avons créé pour la terre, pour le sol, on a besoin de mieux gérer ces ressources. Comment ? C'est à travers l'intelligence artificielle, c'est à travers l'agrotechnologie, des outils qui vont nous permettre d'utiliser les ressources efficacement et d'économiser en termes d'eau, en termes d'intrants agricoles pour ne pas polluer encore le sol et l'eau de la phréatique. Il faut vraiment utiliser des équations très avancées, des outils de détection des risques,
pointu,
des changements climatiques, voilà, pour apporter à cet arbre, pour apporter à cette culture ce qu'il a besoin vraiment. Parce qu'avant, on apportait son rationnement, son calcul. Donc, on faisait même pour l'irrigation, maintenant, on est dans le nano-irrigation.
Exact.
C'est un système qui passe.
Lala Karima, justement, comment la jeune femme que tu es est tombée amoureuse de la terre ? Pourquoi tu as choisi ce parcours ?
D'accord. Alors, pour cette question, vraiment, moi, je suis d'origine. Je suis née dans la région de Fès Meknès, dans une petite ville, dans les alentours de Fès. Et j'étais entourée de deux parcs nationaux, le parc national de Tazka et le parc national de Ifrem. J'étais entourée de montagnes, de champs de céréales, de la nature, des rivières. Et surtout, quand je voyageais chez mes grands-parents, j'étais toujours... ils étaient des grands agriculteurs du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc, dès mon enfance, je me suis familiarisée avec ce métier quand je ne savais pas qu'un jour, je vais devenir une agronome éduquée, scientifique. Avant, mes grands-parents, ils le faisaient. C'est leur métier, c'est
oui.
comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, j'étais toujours comme ça avec eux. Je participe dans les activités de la maison pour travailler un potager, pour ramener de l'eau à la maison. Et du coup, c'était ça, c'était un style de vie. Et dans les études, quand j'étais au lycée, j'étais souvent... je m'oriente vers les sciences naturelles, donc les sciences de vie et de la terre. Et je me suis dit, je veux vraiment étudier ça et comprendre ça, comment cette eau il traverse la terre comme ça, il crée un circuit, comment cet arbre il grandit. Donc j'avais des questions pour lesquelles je cherchais toujours des réponses, et la science, ça m'a apporté les réponses. Mais pour le métier d'ingénieur, vraiment ça, c'est... Quand je le raconte, vraiment, les personnes sont choquées comme ça. Moi, je n'ai pas choisi ce métier, vraiment. C'est le métier qui m'a choisi.
Oui.
Parce que quand j'ai postulé j'ai candidaté pour l'IAV. L'IAV, c'est l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. Et je ne savais pas qu'ils forment des ingénieurs. Et
Karima, oui. juste que je comprenne. Comment on peut envoyer sa candidature quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va étudier ?
Voilà, exactement. Parce que c'est un institut avec plusieurs écoles. Ils avaient la médecine vétérinaire, ils avaient l'agronomie, ils avaient l'industrie agroalimentaire et ils avaient la topographie.
D'accord.
Et dans ma dernière année d'études, parce qu'on était dans un village. Moi, j'ai grandi dans un village dans la sortie de Fès. Et on n'avait pas d'orientation à l'époque. C'était juste ce qu'on entend. il n'y avait pas des sessions d'orientation des personnes qui viennent. Et j'ai étudié dans une, comme je viens de dire, dans un village où on avait un seul lycée. Et vraiment, il y avait un manque d'orientation. Donc, j'ai entendu, enfin, juste en parlant, une personne qui est venue, elle a dit que pour les personnes qui s'intéressent à étudier dans tout ce qui est biologie, sciences de vie, de terre, et on voit, ils peuvent envoyer leur candidature pour l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan. Et on passe par une année, la première année préparatoire qui s'appelle la PESA, accès, année préparatoire pour l'accès aux études agronomiques. Donc, quand j'ai étudié agronomique, c'est on va étudier sur le végétal, on va étudier la terre, le sol, l'eau. Donc, ce sera la continuité de mes études en sciences de vie et de terre. Par la suite, quand j'étais à cette première année, et cette première année, il va me préparer pour la suite. Donc, vraiment, ce qui était important pour moi, c'est de passer cette première année. Parce que si on passe, sinon, on va quitter vraiment pour autre chose. Donc, il était une année éliminatoire. Et par la suite, je me suis trouvée entre deux choix de devenir soit ingénieur agronome, soit un médecin vétérinaire, soit ingénieur topographe, ou bien ingénieur en agroalimentaire. Donc, c'est à ce moment-là que je commençais à voir la continuité de mes études, la continuité de mon parcours. Mais avant, c'était vraiment, c'est la passion qui m'a guidée et pas le
Et
métier.
pas le métier.
Voilà, donc ça a été comme ça et alhamdoulilah.
Alors justement, tes grands-parents, des deux côtés, c'est des agriculteurs traditionnels. Maintenant, voir leur petite fille ingénieure agronome, est-ce que c'est un métier qu'ils auraient voulu pour toi et qu'ils apprécient que tu fasses?
Une question très très importante. Au début, vraiment, ils étaient réticents par rapport à ce choix,
Ah oui.
parce que dans leur croyance, c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts et c'est un métier masculin, comme je viens de dire. Et j'étais très réticent par rapport à ça. Même parfois, j'entends des blagues sur moi en disant, oui, filaha. Tu vas revenir à la terre comme tes grands-parents, tu ne vas rien faire avec cette sécheresse. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de blagues. Mais par la suite, quand j'ai pris le diplôme, ils ont vu que mon parcours n'est plus lié à la campagne et à ce travail traditionnel. Mais plutôt, c'est un travail parce que j'ai travaillé avec beaucoup de bailleurs de fonds qui investissent dans le développement durable au Maroc, qui apportent du financement. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on connaît notre territoire, le paysage agricole marocain, et on connaît les défis et les challenges, surtout dans les zones marginalisées, dans les zones vulnérables, où les personnes souffrent encore pour trouver comment démarrer et protéger leur agriculture. Donc, on intervient pour apporter des solutions avec de financement pour sauver ces vies qui sont fragilisées par le changement climatique. Et revenant à ma famille, donc lorsqu'ils voient ce que je fais avec tous mes déplacements partout au Maroc, même parfois à l'extérieur du Maroc, pour des réunions plus stratégiques, pour me former sur les solutions innovantes à apporter pour mon pays. Ils sont très contents. Et je ne suis plus dans ces zones où ils imaginaient que je serais éloignée, dans des terrains, dans des bois. Pas du tout, mais plutôt j'ai un poids, j'ai de l'ingénierie à apporter, j'ai des solutions innovantes à apporter pour ces gens. Ils sont très contents et c'est quand ils voient l'impact. Et maintenant, ils changent d'idée et de ce stéréotype avec lequel on a commencé
Ouais,
la
ouais.
discussion.
Alors, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est pas en fait que la terre et les gens qui l'habitent.
Oui, effectivement, parce que l'agriculture, c'est avant la définition de l'agriculture. C'est un style de vie. parce que c'est toute une vie qui dépend de ses activités. Quand on voit un agriculteur, par exemple nos grands-parents, nos ancêtres, il avait un système qui gère tout ça, tout le bétail, la terre, il travaille la terre, il conserve les ressources en eau, et leur année, il ne calcule ça pas avec un mois, parce que nous, tant que fonctionnaire, ou bien salarié, ou bien entrepreneur, on a une comptabilité mensuelle. Eux, ils ont une comptabilité annuelle. Donc, toute leur vie, ils tournent autour d'une année. On appelle ça la campagne agricole. Ils commencent l'automne et ils font tout ce qui récolte vers mai. Le reste, c'est l'été. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a que l'élevage, production de volailles. Et leur monnaie, ils gèrent ça pendant l'année. Ce qu'ils vont récolter, c'est la monnaie de l'année prochaine. Donc, vraiment, revenons à la question humaine. Actuellement, ce que je fais avec les, surtout dans le monde rural, dans le monde rural, vraiment, je comprends, c'était parce que c'était mon passé, donc je comprends l'agriculteur ce qu'il a besoin. Donc il a plusieurs défis et il a un style de vie. Donc il faut sécuriser cette agriculture pour qu'il lui donne de quoi il va vivre l'année prochaine. Et pas que l'année prochaine, donc il faut la durabilité. Donc il faut que, pas que uniquement l'année prochaine, mais les années à venir, on renforce leur capacité à devenir plus résilient, on renforce leur capacité à confronter les défis lorsqu'on n'est plus là. Parce que nous, quand on apporte des solutions et du financement, on va quitter par exemple ce territoire qu'on finance et qu'on renforce les capacités, si on va quitter, ces personnes, ils vont toujours dépendre de nous. Ils attendent toujours le financement, ils attendent toujours l'aide. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on tape plus sur les compétences, sur les qualifications de cette communauté, de ce douar, pour qu'il s'intègre au changement de mentalité, pour qu'il il s'approprie au défi de son douar. Donc, on est toujours
leur apprendre vraiment l'autonomie.
Exactement.
Ouais.
Il devient autonome, il ne dépend pas de l'État, des aides de l'État ou bien des autres bailleurs de fonds, mais on vient avec un projet de 2 ans, 3 ans, après, on part. Donc c'est à eux de continuer, de chercher, d'innover, on donne les outils, on donne le matériel, on donne les solutions.
Et le mindset aussi, surtout.
Exactement. Et même, alhamdoulilah, ça commence à changer actuellement la mentalité dans le rural marocain. C'est vraiment, on est très satisfait des chiffres. Vraiment, beaucoup de personnes, ils ont créé des coopératives, ils commencent à valoriser les produits de terroir. Ils ont vraiment beaucoup de ressources, des plantes aromatiques, l'olivier, l'huile d'olive, le miel. Beaucoup de personnes dans le rural, maintenant, ils génèrent un revenu grâce à ce changement de mentalité. Ils commencent à produire et à exploiter leurs ressources pour générer du profit et pour financer les études de leurs enfants, rester dans le rural pour garder leur présence, parce qu'on a besoin de personnes dans le rural. C'est ça qui crée l'intégrité, c'est ça qui crée même la paix et l'équilibre entre le rural et l'urbain. Et on a beaucoup...
Ouais. Oui. Par rapport aux femmes, justement, toi, tu es une femme qui évolue dans le monde rural, qui travaille dans l'agriculture. Quelle est la place aujourd'hui de la femme marocaine dans le monde rural? Est-ce qu'elle a évolué?
Bref, si on parle de l'évolution, c'est vraiment un long voyage. Donc ça commence toujours par des petits changements, parce que dans le rural, il y a une remarque très importante, c'est la résistance. On a plus de résistance dans le rural que dans... Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui n'est pas habitué au changement, qui est souvent enfermé, qui est souvent marginalisé, qui donc à cause de ce qu'elle a subi dans le passé, de cette marginalisation, surtout dans le passé, c'était les dernières zones pour lesquelles on apporte de l'eau potable, on apporte de l'électricité, des services médicaux, de l'éducation. Donc, il y a certaines résistances et ils se sentent toujours comme s'ils sont dans la dernière ligne de la liste. Donc, quand on vient avec des programmes, donc ça commence vraiment à changer avec beaucoup de stratégies nationales, de développement rural, surtout au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, il y a des stratégies de développement rural, développement de l'agriculture. Donc, on commence vraiment à briser cette clôture sur le monde rural avec ces programmes de renforcement de capacité, avec ces programmes de financement. Et la femme, actuellement, dans le monde rural, elle se sent écoutée. Elle se sent écoutée comment ? Parce qu'on encourage beaucoup d'initiatives économiques portées par les femmes. Il y a beaucoup de programmes actuellement, soit de l'État, soit financés par d'autres bailleurs de fonds, soit l'Union européenne, soit la GIZ, soit la Danida. Beaucoup de programmes qui sont là, des financements qui sont là uniquement pour les femmes.
Lella Karima, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un échange très intéressant avec tes questions. Tu as des questions auxquelles qui ne me viennent pas à la tête vraiment, mais quand on discute comme ça, ça fait vraiment un
plaisir. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ma curiosité aussi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.